Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI bien sûr et en direct pour suivre la soirée du Ballon d'Or avec le nom du vainqueur qui sera révélé ici à Paris dans quelques instants et nous vous en tiendrons bien sûr informés. Nous connaîtrons d'ici quelques instants non seulement le vainqueur mais les trois personnes qui accompagneront le vainqueur sur et autour du podium. En tout cas, le trophée Copa a déjà été remis ce soir. Il devait être remis à un jeune espoir du football mondial. Eh bien, sans surprise, c'est Kylian Mbappé qui a reçu ce trophée et qui l'a d'ailleurs honoré. Vous l'entendrez, il a évidemment remercié tout le monde. Nous évoquerons aussi dans ce Radio Foot International, aujourd'hui nous reviendrons dans le débat que nous avons eu tout à l'heure sur la CAN 2019. Cette CAN qui se tiendra donc loin du Cameroun. La décision annoncée vendredi soir par le président de la Confédération africaine met un point final à un long et triste feuilleton pour la plus grande tristesse des Camerounais, vous l'entendrez. À qui la faute, doit-on se demander du côté de Yaoundé? Eh bien, Jean-Bruno Tagne nous donnera les dernières nouvelles du Cameroun. En attendant, je vous présente les invités qui nous accompagnent à cet horaire tardif, des habitués du soir d'ailleurs. Nabil Djellit, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci. Vous qui êtes du journal France Football,
oui,
ceux qui attribuent justement ce prix si prestigieux et qui fait rêver les footballeurs. Et puis Patrick Juillard nous accompagne aussi. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Patrick Juillard du site Foot Africa 365. Et Alejandro Valente, notre réfé, est là. Bonsoir Alejandro.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Vous croyez que ça sera Messi?
Bah non, on sait que ce ne sera pas Messi.
Ah,
déjà.
Bon. Alors, une indication, mais vous êtes là quand même, merci. Martin Guez, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous et de nous accompagner, évidemment, parce qu'il y a tout un palmarès et nous essaierons de l'esquisser dans cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation ce soir. Louis Lafargue nous accompagne aussi, Radio Foot, c'est parti.
Donner le sens, faire play et le but, se faire plaisir et marquer des buts. Donne une belle balle, un beau ballon et le monde se façonne à sa dimension. 2m44 sur 7m32, son but est donc réduit, mais ça le rend heureux. Il prend de l'élan, ajuste le tir, passe, dribble, tombe, se relève et puis il shoot. C'est la hantise du portier, shoot, c'est la hantise du portier, shoot, c'est la hantise du portier, shoot.
Quelques notes d'MC Solar qui parle bien de football. Hein. On est dans la musique aujourd'hui. C'est aussi la fête du côté de ce grand palais, pas très loin d'ici d'ailleurs, sous cette sublime verrière. C'est plutôt une belle fête, Alejandro Valente. Elle vous plaît en tout cas.
Une très belle soirée qui n'a rien à envier au gala organisé annuellement par la FIFA. Vraiment, on peut féliciter France Football qui a bien fait les choses et qui a vraiment offert un très joli spectacle.
Il y a beaucoup de monde en plus,
oui,
il y a près de 1500 invités, on a notamment tous les champions du monde.
Effectivement, il y a un parterre qui est assez exceptionnel, avec presque des délégations de tous les grands clubs. Il y a des grands joueurs, il y a également des artistes, des acteurs français plutôt qui sont présents, mais on n'oublie pas également le monde du football avec des jeunes, des amateurs qui sont là également pour garnir le Grand Palais. Oui, France Football.
Beaucoup de joueurs aussi venus tout simplement de France, c'est-à-dire du championnat de France.
Oui, comme Oussem Aouar par exemple de Lyon, ou Kimpembe par exemple du Paris Saint-Germain. Après, il faut pas oublier que c'est France Football et France Football, c'est le groupe Amaury et le groupe Amaury, c'est aussi un groupe qui est connu pour organiser le Paris-Dakar ou le Tour de France. Donc c'est un groupe quand même qui est solide et qui a les reins solides et qui est capable d'être au rendez-vous pour ce genre d'événements. Quoi.
Mm-hmm. Une curiosité, c'est un footballeur qui est présentateur ce soir et c'est Ginola qui est là pour animer, on va dire, cette soirée.
David Ginola, un miraculé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait eu un très grave accident cardiaque et donc bon, il est en pleine forme.
Mm-hmm. Ouais, c'est ce qu'on voit. Et en tout cas, Alejandro, oui, c'est...
Ah, je pense que dans quelques instants, on va connaître les noms du lauréat.
Alors, là, on en est à la quatrième place.
Oui, eh ben, on peut peut-être les entendre en direct sur la chaîne L'Équipe. Donc.
De le découvrir. Mesdames et messieurs, voici
le Ballon d'Or France Football 2018. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modric.
Il tenait la corde, hein, ce joueur Alejandro Valente, Luka Modric, le Croate. Pour lui, c'est une année bénie d'ailleurs.
Absolument. Depuis quelques jours, son nom circulait comme le grand favori de cette course finale aux grandes dames des Français, champions du monde. Lui qui a été finaliste de cette Coupe du Monde avec une équipe croate qui a étonné le monde, mais qui a remporté aussi la Ligue des Champions avec le Real Madrid.
It's a unique feeling. I'm happy, proud and honored.
I have sensational
emotions at the moment.
Des émotions
extraordinaires really
en ce moment.
Hard to describe by the words.
C'est vraiment difficile à mettre en mots.
Allow me to thank
Mais je voulais
to all of those
simplement
who helped
remercier
to be here tonight.
Tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir. Est-ce que c'est un rêve devenu des réalités?
First of all, I would like to thank to
Tout d'abord,
to my,
permets-moi de remercier mes
coaches,
équipiers.
Real
mes
Madrid,
entraîneurs,
Real
tout
Madrid
le staff du Real Madrid et toutes
Madrid,
les autres personnes qui travaillent pour le Real Madrid.
And,
je vais remercier
team,
tous mes équipiers de l'équipe nationale,
course,
remercier ceux qui ont voté
family,
pour moi et bien entendu remercier ma famille,
kids,
mon épouse, mes enfants
me as a person,
qui me permettent de m'épanouir en tant que personne et qui me permettent de travailler et de réussir en tant que professionnel.
As a kids, we all have dreams. My dream
Quand on est enfant, on a toujours des rêves.
Club,
et moi, mon rêve, c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées, et j'en ai rêvé. Et le Ballon d'Or, c'était tout ce dont je pouvais rêver
really
en tant qu'enfant.
Honor and privilege
c'est
to,
véritablement
to
un honneur pour moi
tonight.
Que de brandir so, ce trophée ce soir.
S'il vous plaît. Luka Modric. Alors, nous avons eu
Luka Modric donc avait été l'un de ceux qui tenait la corde, je disais, c'est-à-dire un des favoris. En tout cas, il était dans le trio, dans les noms qui revenaient souvent. Surtout, ça concrétise finalement une année parfaite parce qu'il a raflé les prix un peu partout, Alejandro.
Effectivement, et notamment la Ligue des Champions, une deuxième place en Coupe du Monde, et puis le prix de la FIFA, le prix de Best, le prix des meilleurs joueurs de l'UEFA. Ces deux prix sont attribués pour la saison 2017-2018, contrairement au Ballon d'Or qui est attribué pour l'année 2018.
Et puis aussi le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, exactement.
Individuellement, il avait tout gagné, donc il lui manquait que le Ballon d'Or.
Ouais, donc,
et c'est fait.
Finalement, tout converge et c'est le premier joueur croate à recevoir ce prix, à inscrire son nom sur la liste.
Il y avait d'abord
Schuker
qui avait fait deuxième il y a fort longtemps.
Il y a 20 ans.
Ah non, il n'y a pas si 20 ans. Si longtemps, c'était
la dernière
Coupe du Monde, enfin la première Coupe du Monde gagnée par la France, effectivement. Il y avait eu un France-Croatie en demi-finale que peu de gens ont oublié, en tout cas ceux qui y avaient assisté. Et donc effectivement il y avait Schuker. Vos commentaires d'abord.
Moi, je suis
content pour Modric, 33 ans.
Non mais c'est tout simple. Mais
33
déjà,
ans et milieu terrain du Real Madrid.
Ouais.
Hein, il a remercié le Real.
Franchement déjà une émotion très simple. Franchement moi je suis content pour lui. Ça sanctionne une carrière qui est absolument exceptionnelle, une carrière remarquable, passée notamment par Tottenham en première ligue et ensuite il fait encore les beaux jours du Real Madrid. C'est une sorte du Mozart du football, un chef d'orchestre, un joueur fin, intelligent. Ça récompense aussi un joueur discret, humble également. Et puis un physique également. C'est vrai que ces dernières années, même si Messi est un joueur d'un gabarit pas extraordinaire, mais on sent qu'il a des appuis, des cuisses hors normes. Il est extrêmement fin, Luka Modric. Il est svelte. On dirait un petit prince qui trône. Maintenant, c'est le petit prince qui trône.
On
sur,
dirait un jockey. Quoi,
voilà,
un
qui trône sur la planète. Et un mot forcément aussi pour le pays qui représente, petit par la superficie et grand par ses footballeurs. Vous parliez de Davor Šuker, mais la Croatie, c'est un pays de football absolument exceptionnel.
Comme le fut la Yougoslavie.
Comme le fut la Yougoslavie. Et il représente et il incarne parfaitement cette génération dans laquelle ont brillé aussi lors de cette Coupe du Monde des joueurs comme Rakitic, Perisic ou Rebic.
Oui, et d'ailleurs certains sont dans le dans la, la liste des 30 meilleurs du Ballon d'Or puisque Rakitic est au numéro dans le 19e ex-aequo avec Firmino et Sergio Ramos. Patrick Juillard, votre commentaire sur sur Luka Modric.
Bah moi je suis très content parce que toutes les années passées avec Messi et Cristiano Ronaldo, on a récompensé des joueurs qui brillaient grâce aux autres. Des joueurs qui étaient un peu les derniers étages de la fusée de leurs équipes. Là, c'est le contraire. On récompense le joueur qui fait briller les autres. Et ça, je trouve que c'est beau pour le football parce que ça montre que déjà les jurés de France Football dans l'ensemble sont des connaisseurs du ballon. Ils s'arrêtent pas notamment aux statistiques parce que Modric n'est pas un joueur de statistiques. On reviendra peut-être dessus. C'est pas un joueur de dernière passe. C'est un joueur qui est dans le cœur du jeu, qui imprime la manœuvre, qui fait souvent le décalage décisif, le changement d'aile qu'il faut quand il faut, le petit crochet. Mais c'est en général pas le joueur du dernier geste, mais il est vraiment essentiel. Et puis pour moi, c'est la revanche de joueurs qui parlaient lors des 10-15 dernières années, n'ont pas eu le Ballon d'Or alors qu'ils l'auraient mérité. Je pense à Andrea Pirlo, je pense à Wesley Sneijder et je pense à Andrés Iniesta. Et pour moi, Modric, c'est la revanche de tous ces joueurs-là, ces joueurs un peu de l'ombre qui créent vraiment les choses un peu en coulisses, si on peut dire, alors que d'autres prennent toute la lumière. Et ça, c'est l'essence du foot. Voilà, c'est comme si on avait donné le titre de meilleur joueur de Ligue 1 un jour à Benjamin Nivet ou Michael Pagis au lieu de toujours le donner à Ibrahimovic ou Cavani, quoi.
Bel hommage, Patrick. Alejandro.
Oui, sans mettre en cause le talent de Luka Modric, qui est un joueur que j'admire, je pense que par rapport à Iniesta ou à Sneijder que vous citiez, il a une chance, c'est qu'il n'a pas des joueurs qui lui fassent de l'ombre, notamment dans son équipe nationale. Aujourd'hui, on pense quand même, on voit qu'il y a deux Français dans les quatre premiers, que cette constellation peut-être un peu trop brillante qu'est l'équipe de France a un peu tué les chances les uns les autres.
Moi, je pense que c'est plutôt une dimension d'image. Je pense que l'équipe de France a payé son style de jeu. Et quelque part, elle a été championne du monde, certes, avec les qualités qu'on connaît, mais ce jeu parfois minimaliste, où seules finalement les fulgurances de Mbappé donnaient une dimension spectaculaire, ont peut-être, je dis bien peut-être, chez certains juges, coûté peut-être des points à des joueurs français.
Et c'est peut-être, je vais dans le sens de ce que dit Nabil, pour en mettre une deuxième couche, Griezmann, sa saison est aussi remarquable que celle de Modric. Ouais. Si on prend le palmarès,
plus remarquable. Tous les deux ont une Coupe d'Europe, mais l'un gagne la Ligue Europa et
mais
l'autre.
L'un joue au Real Madrid, qui est quand même une équipe, quoi qu'on pense de son style de jeu, quand même plus flamboyante que l'autre qui joue à l'Atlético, qui est une équipe plus restrictive. Et la Croatie, pendant la Coupe du Monde, au-delà du résultat, a peut-être fait plus de beaux gestes et de belles choses avec le ballon que l'équipe de France.
Alors, Luka Modric, en tout cas, il y a quelque chose de très important, c'est justement tout ce qu'il a gagné cette année. Son palmarès est énorme, mais cette année était assez magique. Et écoutons un petit résumé sonore de cette merveilleuse année.
Je suis très heureux d'être au Real Madrid. J'ai fait beaucoup d'efforts pour accomplir un maximum de choses avec ce club. J'y suis par la grâce de Dieu. C'est la plus belle année de ma carrière sur le plan collectif et individuel.
Ah, Croatia, c'est une locura. C'est une locura. Tout le pays ne dorme.
Ah, la Croatie, c'est de la folie en ce moment, de la folie. Au pays, personne ne dort, et pas seulement au pays d'ailleurs, mais dans les pays autour. On dit qu'il y a 4 millions de Croates en Croatie et plus de 4 millions à l'étranger. C'est sûr qu'ils sont tous fous, qu'ils font la fête, ils le méritent. Nous aussi, mais on ne peut pas trop. Il faut bien se reposer pour préparer la finale.
Nosotros también, pero no podemos mucho porque hay que descansar y preparar.
Sokolovi!
quand il sait, il chante même. Hein, c'était le retour à Zagreb des vaincus de la finale, mais des héros du pays. Alors Luka Modric, son année magique, on vous le disait, il gagne encore une Ligue des Champions et ils sont finalistes de la Coupe du Monde. Mais Luka Modric, c'est au total 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 115 sélections aussi avec la Croatie. Et il a gagné aussi une Liga, hein, on s'en souvient, c'était à l'époque de Mourinho, si je ne me trompe pas, quand il gagne le championnat, une Coupe du Roi, et puis après une carrière effectivement qui est toujours pas finie, même s'il a 33 ans. Alejandro, vous voulez nous donner les 4 donc noms mystérieux encore, on ne les avait pas dans le bon ordre en tout cas.
C'est vrai que tout au long de la journée, France Football a égrené la liste du bas vers le haut, donc on connaît finalement le classement final de ce Ballon d'Or 2018, et donc derrière Luka Modric, on retrouve Cristiano Ronaldo, qui finit deuxième, devant donc Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On a vu la déception dans les visages des Griezmann, qui doit se dire sans doute que si Mbappé n'avait pas été français, peut-être qu'il aurait pu finir plus haut.
Mais Mbappé s'est peut-être dit la même chose pour Griezmann, parce que il est quatrième, il n'est pas si loin que ça non plus. Ouais. Non mais Griezmann, si je peux réagir, si ça ne vous dérange pas sur Griezmann, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il est champion du monde. Et là où c'est terrible, je vais vous dire pourquoi c'est terrible.
Il gagne la Ligue Europa où il marque les buts, il gagne la Ligue Europa.
Il est performant avec l'Atlético Madrid. Mais même comme ça, et je ne parlerai pas de Modric, Ronaldo passe devant lui. Pourtant, Ronaldo, avec l'équipe de Portugal, il s'arrête en huitième de finale. Même pas en demi ou en finale comme la Croatie. Mais même comme ça, Cristiano Ronaldo lui passe devant. Ce qui, pour moi, veut dire qu'il manquera toujours quelque chose à Griezmann. A priori,
un autre club,
parce que là, peut-être
de jouer.
Parce que c'est une année de Coupe du Monde.
Est-ce qu'on peut se demander s'il l'avait signé à Barcelone et
Vous avez raison de vous poser la question. Pour moi, c'est ce qui lui manque.
Si une année de Coupe du Monde, il est champion du monde et en même temps il est performant au club, il n'a pas le ballon d'or, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse?
Je pense que l'Atlético Madrid a peut-être, je ne dis pas que c'est un boulet, mais que ça freine un petit peu ses ambitions dans la mesure où l'Atlético ne fait pas partie du gotha des très grands clubs.
On le voit, nous, on est souvent en contact avec des journalistes africains et ils nous racontent un peu comment est vécu le football dans ces pays-là. Les matchs que les gens attendent dans ces pays-là, c'est Barça-Real. Ça peut être des grands derbies anglais, mais c'est rarement les matchs de l'Atlético Madrid. Et ça, la force de l'image au niveau mondial en Modo Vision, elle est défavorable à Griezmann, qui par ailleurs fait une saison en tout point remarquable. D'autant que Modric était sans doute plus brillant avec le Real en 2017 que cette année. Il survole plus les matchs lors de la Coupe de la Ligue des Champions que le Real gagne en 2017 que cette année. Mais je pense qu'il est vainqueur aussi parce qu'il n'y a pas vraiment un joueur offensif qui faisait l'unanimité cette année.
C'est-à-dire, il gagne largement, d'ailleurs, Annie.
Chez les Français, certains préféraient Mbappé à Griezmann. Et Ronaldo, comme Messi, n'ont pas fait de grandes Coupes du Monde.
Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas eu photo. Hein.
On va connaître le nombre de points, on les verra demain matin dans le journal, effectivement.
On va connaître le décompte, alors sans révéler évidemment les écarts d'une manière précise et chirurgicale. Il n'y a pas photo. Luka Modric, il gagne largement ce ballon d'or. C'est-à-dire, on n'est pas au niveau du plébiscite, mais
c'est une
victoire qui est claire et nette et sans bavure.
C'est peu près le même écart, pardon Annie, que Ronaldo l'an dernier face à Messi, je crois.
Martin, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis quelques années, il y avait une alternance sur le podium qui.
Oui, c'est sûr qu'on peut.
C'est une rupture.
C'est la fin de 10 ans de domination de Cristiano Ronaldo.
Ouais, il faut pas les enterrer.
Et Lionel Messi, et on voit encore que Messi qui est cinquième, ça faisait 11 ans qu'il n'était pas sorti du podium. Mais il est toujours là. Cinquième, c'est pas bien loin. Puis Cristiano Ronaldo, même quand il gagne pas, il finit deuxième. Même s'il gagne,
il gagne avec des champions. Il n'est pas venu quand même.
Il s'arrête en 8e de finale.
À mon avis, il faut se rappeler que Cristiano Ronaldo n'avait pas fait des demi-finales et une finale extraordinaire en Ligue des Champions. Il n'est pas impossible que s'il avait marqué un but en finale et en demi-finale, peut-être qu'il serait encore premier.
Mais il faut surtout. Alors, effectivement, il y a une cassure, mais il ne faut surtout pas penser. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent. Il y a une nouvelle ère qui a démarré avec Mbappé.
Non, c'est pas du tout. Pour la première fois depuis 2008, c'est pas l'un des deux qui est sur le podium.
Parce que moi, je suis persuadé que Messi et Ronaldo, la saison prochaine, sont capables d'être de nouveau de là, pour différentes raisons. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini avec ces deux-là. Et tous ceux qui veulent le Ballon d'Or, comme Neymar par exemple ou Mbappé, ils vont peut-être pas le gagner aussi vite qu'on veut bien nous le dire.
Je suis d'accord, et Modric de toute façon à 33 ans, il incarne la même génération que Messi et Ronaldo, donc ça n'est pas une relève, mais il je trouve que pour l'ensemble de son œuvre et notamment cette année, il le mérite.
En tout cas, quand vous parlez de club qui a une résonance mondiale, Alejandro, on est en train de voir à l'écran donc sur cette chaîne L'Équipe le président du Real Madrid qui est aux côtés de Modric. C'est le septième joueur, alors je dis pas que c'est le septième ballon d'or, mais en tout cas c'est le septième joueur du Real Madrid récompensé cette année d'un ballon d'or.
Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid dans cette liste des 30 joueurs. On peut s'en étonner un petit peu. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, ce qui est quand même énorme si on pense qu'effectivement ils ont gagné la Ligue des Champions, mais ils ont fait un championnat assez décevant. Donc il y a l'effet un peu loupe de la Ligue des Champions qui joue à plein son effet. Et puis ils n'ont pas gagné n'importe quelle Ligue des Champions. Ils ont gagné la troisième d'affilée, ce qui a évidemment beaucoup marqué les esprits.
Oui, et puis c'est pas qu'ils aient survolé leur sujet dans l'ensemble, mais la manière dont ils ont gagné les matchs décisifs, le côté très spectaculaire des buts, la bicyclette de Ronaldo, les deux buts de Bale, ça va rester longtemps. C'est une Ligue des Champions pour cette raison-là, pour le côté spectaculaire qui marque les esprits. Et donc je pense que ça joue aussi en leur faveur, outre le fait que le septième joueur, c'est Courtois, qui était en fait pas au Real pendant la majorité de la saison. Alors, c'est 6 plus 1, quoi.
Alors, je crois qu'il y en a 8, en fait, des joueurs du Real Madrid.
Donc, presque un tiers de la liste.
Ouais, 8.
Et Benzema, qui a dû coûter aussi quelques points, éventuellement, à des Français, ouais, même s'il n'a pas participé.
À égalité de points avec Gareth Bale.
On peut peut-être dire un mot de joueur africain, parce qu'on avait vu lors du prix FIFA de Best qu'il y avait un certain Mohamed Salah qui était sur le podium. Là, Mohamed Salah finit 6e.
Il paye donc, l'équipe d'Égypte à la Coupe du Monde, pour moi,
paye,
c'est clairement.
Sans doute cela, et puis peut-être
son début de saison moins flamboyant.
Un peu moins flamboyant. Et puis on a Sadio Mané qui pointe à la 22e place.
Mais c'est bien parce que ça fait plusieurs années quand même. Alors on se plaint toujours chez nos confrères africains que depuis le règne de Eto'o Drogba, il n'y a pas vraiment de relève au niveau. Ben, je trouve que quand même, il y avait déjà eu Mahrez dans le top 10 il y a deux
septième.
Salah, cette année, c'est pas mal. L'Afrique revient quand même via la première ligue principalement. C'est intéressant de le constater.
Alors, il y avait beaucoup de joueurs français qui étaient évidemment sur cette liste parce que champion du monde et parce que aussi beaucoup de joueurs importants dans leur club. Et je pense notamment à Raphaël Varane, hein, autre du Real Madrid.
Qui est beaucoup donné comme un favori il y a quelques mois, mais qui évidemment son rang de défenseur et moins voyant a été pénalisant.
Alors que lui, finalement, il gagnait une Coupe du Monde et il gagnait aussi la Ligue des Champions.
Après, il y a une dimension également charismatique qui rentre en ligne de compte. Bon, Modric, c'est pas non plus un charisme.
Oui, mais c'est le charisme du beau geste.
Mais c'est un joueur offensif. Après, c'est terrible à dire, mais à son poste, Varane n'est peut-être pas forcément non plus considéré comme le meilleur défenseur central au monde. Et à côté de lui, il y a Ramos. Et si aujourd'hui vous demandez qui représente le meilleur actif défensif du Real Madrid, bah tout le monde pense à Ramos et pas à Varane.
Mais comme Ramos, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte.
On pense même
compte,
à Marcelo parfois avant Varane.
Il y a tout le palmarès, il y a le fair play, il y a aussi la carrière qui est récompensée. Donc il y a pas seulement le côté statistique.
En tout cas, Varane est 7e de ce classement, alors que Sergio Ramos se retrouve 19e.
Je trouve quand même que c'est bon. Moi, après, je suis pas dans la tête des votants, mais je trouve que c'est bas pour Varane, 7e, par rapport à la manière dont il a vraiment pris le lead.
Mais tu le mettais sur qui, là, par exemple?
Oui, mais sur la Ligue des Champions, sur les derniers matchs, encore une fois, c'est lui le vrai patron. Ramos est moins bon sur les derniers matchs.
Il faut avoir envie, il faut se forcer pour voter Varane.
Ouais, je sais pas, mais je suis d'accord.
Ah, non, vous êtes dur, Alejandro.
Oui, il est un peu comme ça.
Pourquoi? C'est bizarre, ça.
Il aurait pas voté pour Varane, ça c'est clair. Alors, un Français est donc sur le podium, champion du monde, c'est Antoine Griezmann. Ouais. Et on a quatrième. Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, tout le monde disait, de toute façon, il y avait déjà une récompense pour lui,
ouais,
et c'est vrai
sûr.
Qu'il s'est retrouvé avec le trophée Copa.
Ouais, on pourrait presque penser qu'il a été inventé pour lui, ce prix, puisque c'est la toute première fois qu'il était remis.
Un joueur de moins de 21 ans.
Élu par les anciens Ballon d'Or, c'est qui donne quand même un certain cachet à ce
et
prix.
Et d'ailleurs, on voit le nom, c'est les 33 encore en vie qui votaient, et le trophée est fait avec ces noms-là, ça fait un espèce de petit arbuste.
Ouais.
on aime ou on n'aime pas. Mais,
et l'année prochaine, ils rajouteront le nom de Mbappé pour le remettre, effectivement.
C'est sympa, ça.
Alors, on va l'écouter, Kylian Mbappé, parce que quand il a reçu ce prix, eh bien, il a eu aussi quelques mots bien dans le ton du personnage, on va dire.
Il est temps de découvrir le vainqueur du tout nouveau trophée Copa 2018, élu par les anciens Ballon d'Or. Et il est attribué à Kylian Mbappé.
Bonsoir à tous, déjà, la politesse. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Je vois plein de grands noms du foot. Ma famille, je suis vraiment très content de recevoir ce prix. Ça récompense une formidable année que j'ai pu passer grâce à tous mes coéquipiers, que ce soit au Paris Saint-Germain, où on a réussi à faire le quadruplé national, mais aussi et surtout à mes coéquipiers de la sélection. On a réussi à marquer l'histoire tous ensemble. Une aventure formidable. Je pense que j'oublierai jamais.
Kylian Mbappé qui partage ce prix évidemment avec ses camarades. On retrouve là le personnage, mais c'est surtout quelqu'un qui, on lui souhaite vraiment de ne pas avoir de pépins physiques, on lui souhaite de choisir bien ses clubs. Il devrait encore nous émerveiller, je pense, Patrick Juillard.
Oui, je pense que c'est que le début des...
Il va avoir 20 ans.
On va le voir souvent le 20 décembre. Sur ce genre d'événement, sur le podium, avec un petit discours bien senti à la fin. Et bon, il faudra qu'il se batte. Je pense qu'il n'est pas encore. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'est que quatrième.
Il doit encore progresser.
Voilà, il le sait. Il est très exigeant. Il est très ambitieux. Donc, il n'est pas rassasié. Il se contente pas de ce qu'il a. Donc, je pense que le meilleur est à venir. Et le meilleur, c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui, je pense, venant de lui.
C'est un joueur fantastique qui part sur des bases quasiment jamais vues, ou peut-être chez un Brésilien assez célèbre dans les années 50, 60 et 70, dont je ne citerai pas le nom.
Et qui lui rend souvent hommage.
Et qui lui rend. Mais après, j'ai envie de vous dire. Effectivement, il est profilé pour le gagner à un moment, mais parfois le wagon, il passe pas deux fois. Neymar, on lui a promis depuis quelques saisons, il l'a toujours pas gagné, donc.
Il est 12e, c'est
voilà. Donc, je lui souhaite évidemment de le gagner, mais ça passera par aussi des performances plus importantes en Ligue des Champions.
Alejandro, un petit mot sur Mbappé?
Bah, que dire d'Mbappé? C'est vraiment un joueur qui nous émerveille. C'est vraiment comme une comète qui est apparue dans les ciels et j'espère qu'il aura. Moi, il me rappelle beaucoup le jeune Ronaldo, le Brésilien, quand il avait commencé, avec cette puissance, avec cette capacité d'accélération, avec ses talents techniques, malgré son gabarit. Et je pense je lui souhaite un avenir meilleur, peut-être, que celui de Ronaldo, dont les blessures ont gâché une partie de la carrière.
Martin Guez, il y a eu une joueuse aussi distinguée ce soir.
Oui, c'était une première, soirée de première au Grand Palais, puisque première pour Sprit Copa et première pour le Ballon d'Or féminin, qui a été remis, évidemment, une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui a encore remporté la Ligue des Champions cette année. Elle est norvégienne, elle a 23 ans, elle s'appelle Ada Hegerberg, et rien de plus normal, c'est la meilleure buteuse du championnat de France, c'est la meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Elle avait déjà été nommée meilleure joueuse par l'UEFA en 2016, donc c'est complètement normal que l'attaquante soit encore récompensée. Puis on risque d'entendre parler d'elle, puisqu'il y a une certaine Coupe du Monde de foot féminin qui se profile en France en juin 2019.
Malheureusement, pendant la CAN.
Pendant la CAN.
Oui, bah, ça sera la CAN.
Ça fera.
J'ai rien contre les.
Bah non, mais ça commence avant, ça termine avant.
La Coupe du Monde féminine, mais bon, il y a un moment.
En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le Ballon d'Or remis à Luka Modric, eh bien, ne manquez pas sur le site RFI.fr cet article intitulé Luka Modric, petit prince. Vous en preniez l'expression aussi tout à l'heure, Nabil, petit prince croate, élu Ballon d'Or, donc. Et pour l'instant, eh bien, nous allons, on y reviendra évidemment demain dans Radio Foot sur ce Ballon d'Or, ce classement et sur les appréciations. Retrouvons notre débat du jour. C'était, eh bien, autour de cette CAN 2019 déplacée, donc qui ne sera plus au Cameroun. Un débat avec Hervé Penaud et avec Sega Diallo ainsi que Salim Bongali.
Où est donc la canne? Où est donc la canne? Popol, où est Bah moi je suis déçu, complètement déçu, je sais même pas quoi dire. En fait nous on attendait cette CAN dans notre pays, on était tellement émerveillés.
Oui, je pense que avec le retrait de cette CAN, le Cameroun devrait porter plainte.
Ça fait mal, je le savais pas, je sors du travail, on m'annonce une nouvelle comme ça, ça fait mal. Bon moi j'ai pas de mots à dire, je suis déçu vraiment.
Je suis Camerounais, ça nous va très mal au cœur, malgré tous les efforts que nous avions fournis. Ayant reçu les équipes qui venaient pour contrôler les travaux d'avancement sur les infrastructures, bon, ça me surprend aujourd'hui. Il est bien vrai, bon, on va continuer à travailler, on ne serait pas fatigué. Si Dieu voulant, on aura toujours une CAN à organiser.
Il s'appelle On Love et le rappeur camerounais, vous l'avez entendu, a été très réactif pour concocter ce cri du cœur d'une nation encore sous le choc, sans doute, de la nouvelle tombée vendredi soir. Le Cameroun qui est dessaisi de l'organisation de la CAN car les travaux sont jugés par les experts de la CAF et bien trop en retard pour être donc à l'heure le 15 juin prochain. Cette Coupe d'Afrique que les Lions indomptables devaient défendre à domicile, évidemment, les champions d'Afrique en titre, hein, il l'avait remporté au Gabon en 2016, et bien 2017, en janvier 2017, février d'ailleurs, ne pourront donc le faire avant d'aller du côté du Cameroun voir les réactions. Hervé et Sega, j'aimerais vos commentaires sur cet événement qu'on a beaucoup commenté sur RFI durant tout le week-end, grâce notamment à Olivier Pron.
Oui, on savait de toute façon qu'il y avait une incertitude sur la possibilité que cette CAN se déroule au Cameroun. La mission d'inspection est allée là-bas.
Il n'y en a pas eu qu'une.
Il y en a eu plus. Il y en a eu beaucoup, mais la dernière devait être un peu la définitive, celle qui devait donner le ton, savoir si le Cameroun serait capable d'organiser cette CAN ou pas. Alors je comprends que les Camerounais soient ultra déçus. Ils ont fait d'énormes efforts. Il ne faut pas oublier qu'il y a un emprunt obligataire qui avait été levé pour finaliser certains travaux durant cette CAN. Donc l'argent a été dépensé, des travaux ont été faits. Mais visiblement pas suffisamment. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que c'est pas très grave que ça ait lieu 2 ans après. Vaut mieux être prêt, vaut mieux que tout soit fait dans les normes, et même si c'est 2 ans plus tard, et puis qu'on ait une coupe d'Afrique dont on se rappelle, parce qu'il faut pas qu'on se rappeler d'une coupe d'Afrique pour les mauvaises raisons. Il faut toujours s'en rappeler pour les bonnes raisons. Moi, je suis persuadé que le Cameroun organisera une super coupe d'Afrique des Nations. Il lui fallait un peu de temps. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas s'endormir maintenant et se dire, puisque c'est dans 2 ans, logiquement, c'est ce qui va se passer. Alors, je sais qu'il pourra y avoir des recours, mais on s'est bien rendu compte que les recours seront assez faibles. Mais effectivement, c'est vrai que c'est dur. Mais ces 2 années-là, elles doivent permettre, en s'y mettant tout de suite, de régler tous les problèmes qui peuvent encore subsister aujourd'hui dans le dossier camerounais et ainsi être prêt fin d'année prochaine, début d'année suivante et après organiser une CAN de très très haut niveau. Et je suis sûr que c'est exactement ce qui va se passer avec le Cameroun.
Sega Diallo, tout à l'heure, je disais que c'était la fin d'un triste feuilleton parce qu'il y a eu plusieurs épisodes et notamment au fil de ces visites et on se demandait si le Cameroun serait encore maintenu plus qu'on ne se demandait s'il serait dessaisi en fait.
Pour certains initiés, je pense que c'était connu que la CAN n'allait pas se passer au Cameroun parce que d'entrée, le retard accumulé avait poussé la CAF à se poser des questions. Et ces questions-là n'ont jamais trouvé de réponse. C'est vrai que le Cameroun a fait des efforts. Ils ont, comme Hervé l'a expliqué, emprunté de l'argent, ils ont fait des travaux. La décision, ce qui aurait pu changer les choses, c'est que tout soit prêt 6 mois avant. C'est très rare que ça arrive. Il y a un problème fondamental qui est venu se greffer à ça, c'est la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et je pense que la CAF ne le dit pas clairement, mais cette situation a beaucoup plus joué que l'avancée des travaux. C'est vrai qu'il y a des travaux qui auraient pu finir une semaine ou 2 semaines avant, et la CAF n'était pas prête à assumer ces problèmes-là. Mais je pense que cette décision, elle ne date pas de l'Assemblée, de la dernière réunion. Elle a été entérinée à la dernière réunion.
On se souvient d'ailleurs des mises en garde régulières du président Hamad, et notamment dès le mois d'août dernier. Alors on va aller du côté du Cameroun où nous attend Jean-Bruno Tagne, notre correspondant. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Jean Bruno, on a entendu quelques Camerounais tout à l'heure qui s'exprimaient en début d'émission, qui étaient dès vendredi soir sur l'antenne grâce à Joël Wadem. Mais moi, j'aurais voulu savoir une chose. Aujourd'hui, quelle est la réaction des Camerounais? Est-ce qu'ils ont toujours le sentiment que le ciel leur est tombé sur la tête, ou il y a une certaine résignation, voire un espoir de bientôt l'organiser?
Ah non, la déception est toujours très grande dans l'opinion camerounaise. Tout le monde pratiquement est déçu. Il y en a beaucoup qui estiment que il faudrait attaquer la CAF auprès du tribunal arbitral du sport pour obtenir l'organisation de cette compétition. Globalement, il y en a qui disent que c'est une grosse injustice, parce que évidemment le Cameroun avait beaucoup mis d'espoir dans l'organisation de cette compétition, surtout que ça date de 72, la dernière fois où le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a une partie des Camerounais qui jugent la décision de la CAF tout à fait normale et prévisible au regard de l'avancée des travaux et également de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et beaucoup donc qui en profitent pour demander que des têtes tombent, parce qu'il y a eu quand même une certaine incompétence quelque part entre bureaucratie, l'appât du gain et beaucoup d'autres choses qui ont plombé l'évolution des travaux sur le terrain et qui nous ont amené le Cameroun à perdre l'organisation de la CAN 2019.
Est-ce qu'il aussi désigne, je dirais, un responsable, ces Camerounais? Est-ce que pour eux, il y a quelqu'un qui a plus failli que quelqu'un d'autre?
Alors, disons que la presse aujourd'hui balance un certain nombre de personnalités. C'est notamment un certain nombre de ministres qui intervenaient de près ou de loin dans la préparation de cette compétition. Bon, évidemment, on ne va pas reprendre ces noms ici, mais je dis que des noms sont avancés, et il faut également reconnaître que beaucoup crient au complot. Beaucoup estiment que Hamad en veut au Cameroun, et les déclarations parfois intempestives de Hamad n'ont pas milité en sa faveur. Vous vous souvenez, Annie, il y a très longtemps que Hamad avait dit même à Di Club le Cameroun ne serait pas prêt. Il y a bien longtemps qu'il avait dit cela. Ensuite, il y a les inspecteurs de la CAF qui sont venus ici, et chaque fois après leur visite, ils faisaient des déclarations très enflammées pour dire oui, le Cameroun est très avancé, on n'a jamais vu ça nulle part dans la préparation d'une Coupe d'Afrique des Nations. On en avait d'ailleurs parlé. Et il y a encore quelques temps, Hamad lui-même est venu au Cameroun avec flanqué de Samuel Eto'o. Mm-hmm. Il a rencontré le président de la République, et au sorti de là, il a fait des déclarations qui ont donné l'impression aux Camerounais que la CAN était dans la poche. Lorsqu'il dit par exemple que, écoutez, moi je reçois des rapports alarmants de certains Camerounais qui ne veulent pas que vous organisiez cette compétition. Je suis venu moi-même de l'aéroport jusqu'au palais de l'Unité. Je n'ai vu aucun nid de poule sur la route, alors que les gens m'ont dit que cette rue est jonchée de nids de poule. Et donc voilà, nous n'avons aucun plan B. Bref, il a fait des déclarations un peu intempestives, soit parfois pour rassurer le Cameroun, soit parfois pour inquiéter le Cameroun. Donc il a régulièrement soufflé le chaud et le froid. Et aujourd'hui, les Camerounais en veulent à mort à Hamad.
Oui, évidemment. Est-ce que il y a, disons, des maladresses qui peuvent laisser penser ça?
Non, c'est pas parce qu'il a succédé à un Camerounais qu'il en voudra au Cameroun. Ça, faut tout de suite enlever ça de l'esprit. En revanche, je trouve effectivement qu'il y a eu une communication qui a été désastreuse. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, par moments, ça n'avait ni queue ni tête, ça n'avait pas de sens. Et ça a mis à la fois, parfois, les Camerounais dans l'embarras, parfois, ça les a un petit peu
rendu euphoriques.
Ouais, ils sont sentis un petit, disons, mieux dans leur peau. En revanche, il a tout de suite dit, et ça c'était quand même intéressant, il fallait l'écouter, quand en 2017 il y a le fameux symposium au Maroc sur le football camerounais, d'entrée il dit attention, il va falloir quand même accélérer les travaux. Et à l'époque, il faut quand même dire une chose, et ça c'est important, rien n'avait été fait, ou presque. Il n'y avait même pas de cocane. Ah si, il y avait un cocane vide de sens, avec des noms qui étaient là, qui avaient été balancés, mais qui n'existaient pas réellement. Donc il a fallu se mettre au travail. C'est là où, c'est à partir du moment aussi où il y a eu ces alertes que les Camerounais se sont mis au travail. C'est
oui.
Vrai, hein?
Allez-y, oui, tout allez-y, à fait. Jean-Bruno.
Effectivement, Annie, disons que les alertes de Hamad ont eu le don de bousculer un peu le Cameroun qui traînait la patte. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même se souvenir que ça fait 4 ans que le Cameroun a maintenu l'organisation de cette compétition. Et les alertes qui étaient lancées par Hamas étaient tout à fait normales. Ils disent, faites attention, si vous voulez organiser cette CAN, il va falloir faire des efforts. Surtout que c'est la première CAN que Hamas organise. C'est la première qui va se jouer avec 24 clubs et donc il n'a pas envie de se louper parce que c'est ce qui déterminera certainement la suite de son mandat à la tête de cette institution. Sauf que à un moment donné, il en faisait un peu trop. Il n'y avait pas de cohésion dans le discours de la part de Hamad et également de ses collaborateurs.
Ouais. Alors résultat, eh bien évidemment du côté de Yaoundé et des autorités qui avaient assuré que tout serait prêt à temps et qui, on sait que ça a été important pendant la campagne électorale. La récente campagne présidentielle, et bien que le Cameroun accueillerait enfin la CAN.
Juste Annie, il faut pas surinterpréter l'histoire de la CAN par rapport aux élections. Parce que Paul Biya avait pas tellement de monde en face de lui. Il a quand même gagné largement, CAN ou pas CAN. Parce que je sais que
Benoît Amourou s'en sert d'argument. Ça a aussi servi d'argument.
C'est très important. Oui. Alors attention, c'est très important parce qu'à titre personnel, j'ai compris que cette affaire sentait le Roussi. Quand Hamad a dit que la décision de la CAF serait rendue après les élections et il y avait des explications comme quoi il ne voulait pas avoir une influence négative sur le processus électoral, je me suis dit, ok, si la décision elle était positive, il l'aurait donnée immédiatement et que on aurait profité. Mais si la décision elle était négative, on aurait pu l'accuser d'avoir influencé négativement le processus électoral, du moins en ce qui concerne le président Biya. Donc je pense que à ce moment-là, Hamad et un certain nombre de notables de la CAF savaient très bien que le Cameroun n'organisera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
D'ailleurs, les commentaires officiels, alors il y en a eu peu, mais le ministre de la Commission de la Communication, pardon, Issa Tchiroma Bakary a eu un commentaire et voici un extrait.
Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles.
Voilà, pas de polémique stérile, mais aussi une injustice flagrante, Hervé Segar.
Non, on peut pas parler d'injustice flagrante.
C'est parce qu'il y a beaucoup de victimisation.
Voilà, c'est pas vrai. Là. Il faut pas parler d'injustice flagrante. C'est pas vrai. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ils avaient la CAN depuis 4 ans. Alors déjà, ils n'auraient jamais dû accepter une CAN à 24.
C'est sans doute là le départ de tout le problème. Tout a changé au mois de juillet l'année dernière.
Il n'était pas possible à disputer en janvier, tu es d'accord, au Cameroun, parce que ce n'était pas encore terminé, les infrastructures ne sont pas encore terminées. Donc évidemment que ce n'était pas possible.
D'ailleurs, Jean-Bruno, est-ce que c'est pas là l'erreur aussi du Cameroun? C'est de sans négocier finalement, parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait beaucoup de... Enfin, ils étaient un peu sur le qui-vive. Comment est-ce que tout d'un coup, finalement, ils acceptent sans négocier, sans transiger ce passage de 16 à 24, ce qui veut dire des infrastructures plus importantes?
Alors effectivement, ça a été l'erreur fatale du Cameroun d'avoir accepté que la CAF modifie les termes du contrat qu'il avait passé avec le Cameroun en passant de 16 à 24 clubs pour la CAN. C'est à ce moment-là que le Cameroun aurait dû dénoncer et devant n'importe quelle juridiction le Cameroun...
Maintenant, il ne pourra plus le faire.
Il ne pourra plus le faire. Je pense que ce serait trop facile. Or, à cette époque-là, le Cameroun aurait pu très bien s'en sortir. Et même lorsque le Cameroun accepte d'organiser la CAN malgré tout à 24, il fallait fixer des conditions et demander quand même que les inspections ou alors toutes les autres conditions soient un tout petit peu adoucies. Et au lieu de quoi, les Camerounais ont bombé le torse, ont dit on est prêt, on est capable d'organiser une CAN à 24 et aujourd'hui on se rend bien compte que c'est compliqué. Alors pour dire un mot en ce qui concerne la réaction du gouvernement, il faut dire qu'en ce moment c'est un peu chaud pour les membres du gouvernement. On sort d'une élection présidentielle, il y a un remaniement ministériel qui est attendu et tout. Quel que soit le bout par lequel on peut prendre cette affaire, qu'on parle d'indulgence, de complaisance, de complot, tout ce qu'on veut, il y a eu des défaillances dans la gestion du dossier du Cameroun pour l'organisation de telle Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, de nombreux Camerounais prennent la parole pour demander que des têtes soient coupées, que des responsables soient désignés et sanctionnés. Et on se souvient du triste épisode de la CAN 1972, qui avait entraîné un certain nombre de personnalités en prison, qui avaient également été coupables d'un certain nombre de légèreté dans la conduite de cette affaire-là. Donc, lorsque le ministre parle d'une injustice flagrante, et il a même dit quelque chose de très, très important qui, moi, me laisse interrogateur. Il dit, le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés sans le respect d'une certaine éthique. Alors, lorsqu'il parle d'une certaine éthique, je ne sais pas de quoi il parle.
Ça fait rire Hervé Penaud. Sega, c'était là aussi peut-être ce changement d'amplitude, disons, de la CAN, et puis un manque d'anticipation.
Que ça soit du côté de la CAF, que ça soit du côté des officiels camerounais, je ne peux pas comprendre que personne n'ait anticipé pour informer l'autre et dire, écoutez, à ce niveau-là, ça ne peut pas se faire. On va faire l'annonce à ce moment-là. Mais officiellement, sachez, vous pouvez demander le report parce que vous ne l'aurez pas. C'était la moindre des choses à faire pour le président Hamad parce que il ne faut pas oublier que c'est de la géopolitique. Derrière, il y aura des conséquences, que ça soit au niveau de la CAF, que ça soit au niveau de la géopolitique locale, c'est certain.
Mais il faut simplement pas croire que parce que Ayatou était camerounais, il mettait toujours en avant le Cameroun. Ça, c'est une erreur, hein, je pense, parce que ça, il a pas toujours privilégié le Cameroun dans son travail en tant que président de la CAF. Faut quand même lui reconnaître ça.
Une dernière question pour vous, Jean-Bruno. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on reviendra tout au long des prochains jours avec les candidatures. Mais est-ce que le Cameroun serait content, entre guillemets, si en 2021, il organisait la CAN? Parce que, en plus, on va en parler ici, mais ça déplace le problème. Ça déplace le problème puisque la Côte d'Ivoire a été désignée pour 2021.
Alors, justement, c'est une idée qui fait déjà floresse dans les réseaux sociaux au Cameroun, y compris également dans les médias classiques. Beaucoup estiment qu'il y aurait eu, mais c'est vraiment, ça relève apparemment du fantasme, qu'il y aurait eu un arrangement avec la CAF pour organiser la CAN de 2021. Sauf qu'en même temps, on a vu également dans certains médias ivoiriens, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, qui a déjà lancé ses travaux. Donc là, ça doit négocier ferme. Par contre, il y a pas mal de Camerounais qui se contentent serait bien d'une CAN en 2021 à condition que cette fois-là, on soit vraiment irréprochable.
Oui, alors du côté de la Côte d'Ivoire, les informations et les dernières informations qui nous parviennent, la fédération ivoirienne n'a pas été contactée. Non. Elle reste silencieuse pour le moment. Elle dément en tout cas avoir été informée d'un possible glissement de date. Pour ce qu'on sait. Un de nos confrères qui est sur place dit que de toute façon, le stade d'Abidjan effectivement avance, mais il en manque 4 encore et on vient de poser les premières pierres, donc peut-être qu'il y a aussi du souci de ce côté-là.
Juste une petite chose, pour moi, à mon sens, il est obligatoire, il est obligé que le Cameroun récupère la CAN assez rapidement. Vous ne pouvez pas avoir fait de tels investissements, parce que c'est vrai que tout n'est pas prêt, mais ils ont dépensé un argent énorme. Donc à un moment, il faut quand même que les gens s'en rendent compte, il faut que la CAF s'en rende compte, donc il est logique de repousser. Franchement, pour les Ivoiriens, je suis un peu je vais avoir le même raisonnement que pour les Camerounais. Je ne suis pas certain que ce soit complètement prêt en 2021. Si vous avez 2 ans de plus, ce n'est pas grave.
Voilà pour ce qui est donc de cette CAN 2019. Alors revenons-en à ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, Alejandro Valente, le ballon d'or a été attribué.
Et oui, et sans surprise, c'est Luka Modric, le joueur croate du Real Madrid qui a remporté les trophées, mettant un terme peut-être provisoire et pas définitif au long règne des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il devance au classement justement Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a eu un prix de consolation avec les nouveaux prix Copa.
Exactement, le trophée Copa. Luka Modric, vous nous disiez, Patrick, pour résumer en une phrase, l'hommage au football.
Pour moi, Luka Modric, c'est l'architecte de l'ombre. C'est pas le joueur qui prend la lumière, c'est le joueur qui allume la mèche un peu.
Mais celui qui joue quand même dans un club prestigieux a l'étoile.
Sans lui, les autres dont on vient de citer ne seraient pas aussi grands qu'ils sont.
Nabil ?
Moi, il me renvoie à Van Karajan, un chef d'orchestre, un joueur qui magnifie, qui sublime les autres, mais qui a des qualités individuelles absolument exceptionnelles et qui peut être également décisif. C'est un numéro 10. Pour moi, c'est un numéro 10 moderne.
Et qui a réussi quand même à amener la Croatie, que personne n'attendait vraiment, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde.
Finaliste malheureux, mais finaliste de cette Coupe du Monde en Russie en 2018. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous renvoie au site, ce papier de cet article de nos confrères de RFI Internet. Luka Modric, petit prince croate, élu Ballon d'Or. Merci aussi à Laurence Salerno et à Louis Lafargue qui m'ont accompagné pour préparer cette émission tardive. Et on vous dit évidemment à demain. Et on y reviendra notamment avec Habib Bey sur ce Ballon d'Or. Merci à tous. Bonne nuit.